Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
C'est un décret dont la publication se fait attendre. Estimée imminente en juin, puis en juillet, elle tarde et retarde. Ce décret est pourtant vital pour des milliers de personnes car il définit les modalités de prise en charge du Covid-19 en tant que maladie professionnelle. En juin, le ministère du Travail relate l'hebdomadaire Marianne s'orientait vers une indemnisation généreuse, automatique, pour les personnels soignants ayant été malades et facilitée pour le reste des travailleurs concernés, au front pendant l'épidémie, les caissières et caissiers, les livreurs, etc. Au lieu de quoi, le projet de décret, ont révélé début juillet Le Monde et Marianne, serait beaucoup plus limité. Il poserait des conditions pour les soignants et l'indemnisation serait encore plus compliquée pour les autres. D'ailleurs, même si le texte n'a pas été voté, le site de l'assurance maladie permet déjà aux travailleurs atteints par le Covid ou aux personnes ayant perdu un proche de se déclarer en ligne. C'est Ouest France, cette fois, qui révèle que les conditions d'indemnisation ressemblent fort à ce projet de décret au rabais, déjà critiqué par plusieurs organisations syndicales. Pour que la maladie soit reconnue, il faudrait donc en avoir contracté une forme sévère, avoir été hospitalisé et placé sous respirateur, ou bien être mort. Ce qui fait beaucoup de conditions et élimine de fait de nombreux malades. Et promet au passage que la reconnaissance sera un vrai parcours du combattant. On en est là à peu près aujourd'hui dans l'attente. Les trois personnes qui racontent leur histoire dans les pieds sur terre tout de suite ont justement contracté le Covid dans le cadre de leur travail. Ce sont les héros de notre printemps, souvenez-vous, les combattants du Covid, les légionnaires du Corona. Sabrina est infirmière, Zouir travaille au rayon fruits et légumes d'un magasin de la région parisienne et Alain est un élu dans un conseil municipal. Karine Lelouette les a rencontrés en juin. À la fin de cette émission, je vous en donnerai des nouvelles récentes.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alors, je m'appelle Sabrina, j'ai 38 ans, je suis infirmière dans un service d'urgence dans le 93, à l'hôpital Avicenne à Bobigny, et j'habite à Vaujour dans le 93 aussi. Donc quand j'étais petite, j'aimais bien faire des petits pansements, des choses comme ça, donc le soin en lui-même était en moi déjà depuis très longtemps, et ça s'est fait presque naturellement en fait. Médecine pour moi c'était beaucoup trop long, et ça correspondait pas réellement à ce que moi, l'image que j'avais du soin vraiment au patient, j'avais besoin de cette proximité avec le patient. J'avais deux grandes idées dans ma tête, c'était effectivement soit la psychiatrie, parce que je trouvais que soigner avec les mots c'était beau, et les urgences, parce que il y avait le côté très spontané et très rapide. Le patient arrive, il est vraiment pas bien, et on est là tout de suite sur lui à essayer de le soulager, à essayer que ça aille mieux, et après on passe à quelqu'un d'autre, c'était ça aussi. Et je suis arrivée donc à l'hôpital Avicenne à Bobigny, il y a presque 8 ans maintenant, aux urgences. Et puis est arrivé ce fameux virus qui a un peu chamboulé tout le monde. On était sur les starting blocks. On nous avait dit, voilà, le virus arrive, préparez-vous, c'est un virus qui est virulent. C'était électrique, en fait. Bon, au début, le matériel, c'était à profusion. On va pas se mentir, hein, y avait des boîtes de gants partout, des boîtes de masques partout, du gel, enfin, voilà. Et puis, une semaine après, on commençait un petit peu à freiner. Oui, faut faire le décompte des gants. Bon, ok. Et puis, t'es responsable de la distribution des masques. Donc, tu en donnes que tant par personne. Et puis, tu en donnes pas au, par exemple, le collègue de la radio qui vient chercher un patient. Pour faire... Non, tu l'en donnes pas. Ça a commencé à être un peu compliqué. On s'est dit, ça pue. En fait, dans les périodes de crise comme ça, on est systématique. On savait ce qu'il fallait faire, on savait qu'il fallait tous les bilander, tous les isoler au maximum, qu'il fallait que nous aussi on fasse attention de ne pas tomber malade. Donc tout ça, c'est fatigant psychologiquement, physiquement. Et je pense que c'est ce qui a favorisé aussi que je sois tombée malade, en fait. Ça s'est passé de manière très rapide. J'ai fini mon week-end de travail. Donc le lundi, j'étais un peu patraque, mais bon, comme après 3 jours de travail, bon, je me suis dit, c'est normal, t'es fatiguée, tu vas te reposer, puis ça ira mieux demain. Et puis bah, ça n'a pas loupé, le lendemain, je me sens pas bien, je prends ma température, et en fait, j'avais de la fièvre. Je préviens ma responsable, qui me dit, écoute, reste chez toi, appelle le service de médecine du travail, et ils vont se charger de te donner un rendez-vous pour faire un dépistage, pour voir si tu es positive ou pas. Je fais mon test donc le mercredi après-midi et je suis rappelée le vendredi et elle me dit, la dame que j'ai au téléphone me dit, bon bah vos tests sont négatifs, vous n'êtes pas malade du Covid donc c'est bon, tout va bien, ça doit être un petit virus. J'ai eu un coup de fouet, j'étais contente, j'ai dit c'est bon, c'est pas ça, donc bon s'il y a besoin d'un renfort pour ce week-end, vous m'appelez. Sauf qu'en fait le samedi c'est horrible et dimanche je vais aux urgences pour consulter parce que vraiment ça va pas. On me refait un test nasal, là, un couvillonnage nasal, et on me fait un scanner. En fait, l'écouvillon est négatif toujours. C'est-à-dire que le test est négatif, mais le scanner montre des lésions pulmonaires. J'ai au niveau de mes poumons des atteintes liées au Covid. Bon. Le médecin m'arrête 15 jours, me dit, voilà, il faut vous reposer, vous prenez du Doliprane, vous vous hydratez bien, machin, machin. Sauf qu'en fait, c'est l'enfer qui débute pour moi. Je vomis, j'ai des douleurs partout, j'ai l'impression qu'on me met des coups de couteau dans tout le corps, en fait. J'arrive à rien avaler. J'ai des diarrhées. Je monte à 40 de température. Et je me dis, c'est pas possible. Je peux pas me lever toute seule. Le fait de me laver me demande un effort. Et je me retrouve un peu essoufflée quand même. Je suis pas quelqu'un qui me plaint de base, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai été beaucoup trop essoufflée. Mon ami qui était avec moi me dit, attends, on va prendre ton taux d'oxygène, on va voir. Et en fait, là, alors que la norme, quand on est en pleine forme, c'est 100%, 97%, 98%. Et là, j'étais à peine à 90%. Donc je retourne à l'hôpital où je travaille. Bah là ils me disent non, vous rentrez pas chez vous, on vous garde. On vous garde, vous avez besoin d'oxygène, vous êtes en détresse respiratoire. Donc on va vous hospitaliser, ça a duré 10 jours. J'ai eu très peur. J'ai bien cru que je suis pas passée loin de l'intubation, quoi. Avec toute l'appréhension qu'il y a derrière, quoi. On se dit bon bah si. On entendait les médecins dire les patients qu'on intube, on les intube pour minimum 3 semaines. On n'a pas des très bons résultats après parce que les gens sont dépendants de l'oxygène très longtemps après. Enfin, il y avait. Il y avait tout ça qui me disait, mais tu peux pas à 38 ans te retrouver dépendante en oxygène et même peut-être ne pas te réveiller, quoi. Enfin, je pensais à ma famille, en fait. Je me disais, mais. Enfin, c'est pas, je peux pas leur faire subir ça. Parce que mes parents ont déjà perdu un enfant. Donc, je pouvais pas leur faire subir ça une deuxième fois, en fait. Et du coup, c'était aussi ça, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de venir me voir. Les visites étaient complètement interdites. Et je les avais au téléphone, mais ça faisait déjà un moment que je ne les avais pas vus. Plus ce moment où on a besoin d'eux, en fait. On a besoin d'eux et qu'on ne peut pas les voir. Et de se dire, bah, peut-être que je ne vais pas m'en sortir et que je ne les aurais pas vus. C'est très dur. Et ça l'était déjà avant que je tombe malade, quand on intubait les gens. J'avais cette idée dans la tête de me dire, mais on intube les gens et ils peuvent pas voir leur famille. On a perdu un monsieur. Et en fait, sa famille n'a pas pu le voir. Ils avaient interdiction de le voir. On a dû le mettre dans la housse mortuaire, dans une. Enfin, le protocole pour les décès était hyper lourd et presque inhumain, en fait. On ne devait pas les toucher, on devait les emballer dans un drap puis dans un premier sac. Avant de fermer le sac, il fallait mettre une alaise sur leur visage pour que si, au moment où on les déplace et qu'il y a des appels d'air ou de choses comme ça, le virus qui pourrait être expulsé n'atteigne pas les personnes qui manipulent le corps, en fait. Il fallait donc l'emballer dans une première housse, puis dans une deuxième housse. Et en fait, ces housses-là n'étaient jamais réouvertes, en fait. Ça veut dire que les dernières personnes qui voyaient, c'était nous. Les dernières personnes qui s'occuperaient du corps, c'était nous. Techniquement, j'étais dans le même cas qu'eux. Potentiellement, je pouvais ne pas m'en sortir. Et ça veut dire que mes parents n'auraient pas pu me voir et j'aurais pas pu les voir non plus avant. C'est hyper dur à vivre, ça, hein. Alors au tout début, j'avais besoin de beaucoup d'oxygène, donc j'ai été traitée par antibiotiques et des corticoïdes à très forte dose. Le traitement se fait petit à petit, on diminue les doses et en fait, au bout de 4 jours, je commence à ressentir un mieux parce que le traitement fait effet, je suis toujours très essoufflée, mais j'ai besoin de moins d'oxygène, ça va mieux. Le médecin me propose une sortie, donc je sors au bout de 10 jours. Et donc je rentre à la maison comme ça, sans rien, sans suivi, sans traitement. Je suis sortie comme ça, un peu à l'arrache. Mais j'avais cette appréhension de rechuter. J'avais peur de cette réinfection. J'ai eu peur de mourir et je me dis, je ne peux pas avoir passé de « j'ai failli mourir » à c'est bon, tout va bien, pas de médicaments, pas de suivi. Vous rentrez chez vous, vous reprenez votre vie comme elle était avant, vous vous reposez parce que vous êtes fatigué, mais c'est tout. Et j'entame ma convalescence. Une fois que je monte les escaliers, il fallait que je prenne 10 minutes pour reprendre mon souffle. Je montais les marches vraiment une à une, très doucement, il fallait que je me ménage. 2 semaines après, ça va toujours pas, je suis toujours essoufflée. J'ai des douleurs dans la poitrine, j'ai des courbatures, j'ai refait de la fièvre. Bon, on va faire une prise de sang et puis on refait un scanner. Et puis bah là, ça tombe, hein, en fait, embolie pulmonaire. Ok, bon, bah on repart pour un traitement de 6 mois. Et pareil, du repos. J'ai toujours pas repris le travail.
Vous avez envie d'y retourner ou pas?
Je sais pas. C'est une vraie question à laquelle pour l'instant j'ai pas la réponse. Ça a été un vrai électrochoc en fait, ce truc. Je m'étais pas mise en tête que je pourrais mourir au travail. Et là, je l'ai pris un peu en pleine face. Après, c'est un métier que j'ai vraiment dans le sang. Je me vois pas faire autre chose, mais j'ai cette idée-là de me dire comment est-ce que tu peux risquer ta vie pour le travail. J'arrive pas à l'accepter, en fait.
Je suis Zerouki Zouir, j'habite à Ivry et j'ai 55 ans. Et ça fait 19 ans que je travaille chez Monoprix, bientôt 20 ans. Notre quotidien, voilà, on vient le matin à 6h30, 7h. On reçoit la marchandise, on fait la mise en place, on fait les prix, nos commandes quotidiennes et c'est tout. Quand on a entendu qu'il y a une épidémie, qu'il y aura le confinement. C'était un peu alarmant, c'était un peu inquiétant. Là, on se pose la question, on dit, est-ce que j'ose prendre les transports et je prends le risque pour aller travailler? On n'avait pas le choix parce qu'on est dans un secteur qu'il faut le faire tourner quotidiennement. La première semaine de confinement, ça a traîné. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, on n'avait pas de produits. La deuxième semaine de confinement, c'est là où ça a commencé à prendre des décisions. Ils ont installé au niveau des caisses, des vitres. Ils nous ont ramené le produit, les gants. Moi, personnellement, j'ai continué comme tout le monde. J'ai continué à travailler, à prendre les transports comme d'habitude. J'ai dit, il ne faut pas que je pense, il faut que j'y aille au boulot, normalement. Les premiers symptômes, je les ai sentis le 2 avril, exactement. Quand je suis rentré, j'ai commencé à sentir que ça ne va pas. J'avais de la fièvre, j'avais des courbatures, tout ça. J'ai dit, peut-être ça va passer, peut-être c'est une grippe. Je prends un Doliprane. Le lendemain, je vais travailler et vers les coups de 10h, 11h, ça a été les mêmes symptômes. Ils sont revenus. Eh bien, une fois que je rentre chez moi, j'ai décidé d'y aller voir mon médecin traitant. Il m'a donné un test à faire. J'ai dit, il faut que j'attende les résultats. Et en 48 heures, mon état de santé s'est détérioré. Je ne mangeais pas. Je vomissais. J'ai perdu beaucoup de poids. Je ne pouvais pas faire d'efforts physiques, rien du tout. C'était vraiment cauchemardesque. Pourtant, je suis un peu sportif, tout ça, mais je n'étais pas la même personne. Le 7 avril, j'ai reçu le résultat, c'était positif. Et là, ça y est, j'ai dit, il faut mieux appeler les secours et m'en transporter à l'hôpital directement. Je ne pouvais pas rester chez moi, c'est impossible. Quand j'ai vu dans quel état j'étais, j'ai dit, est-ce que je vais m'en sortir? Et après, j'ai combattu. Il y a même des médecins qui nous montaient le moral. Il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. C'est ça qui m'a motivé un peu. De l'autre côté aussi, il y a ma famille, il y a les proches aussi. Je recevais des messages tous les jours. Il y a les collègues aussi. Ils m'ont monté le moral pour combattre cette maladie.
Au bout de combien de temps vous avez commencé à diminuer l'oxygène, tout ça?
À partir du 3e ou 4e jour. 8 litres, après j'étais à 7 litres. Après à 6 litres, et jusqu'à 20 litres après, ils m'ont débranché. Et j'ai commencé à faire des exercices physiques, des pompes, à marcher, avant de sortir. On quitte l'hôpital, il faut rester au moins 2 semaines en quarantaine. J'ai dormi ici, dans le salon, sur le canapé. Et j'étais seul. Et à part les collègues, ni le directeur du magasin, ni personne d'autre de la direction de Monoprix qui m'ont contacté. Personne qui vient vous voir ou dire « on va prendre de ses nouvelles, on va le motiver ». Et le 2 juin, j'ai travaillé une semaine. Eh bien, c'était dur pour continuer à travailler, à avancer. Je suis pas apte à 100% physiquement. Même les copains, ils ont remarqué que je suis pas le même. Je suis un joueur de foot. Je joue avec mon quartier ici, avec mes copains. Le dimanche dernier, j'ai continué à jouer. Mais j'ai remarqué que je pouvais pas avancer sur le terrain. Parce que le Covid-19, il attaque directement le système respiratoire. Et ce qu'il me disait le médecin, malheureusement, il y aura des séquelles. Est-ce que je vais revenir comme avant? Vu mon âge, je ne pense pas. Toutes les personnes qui sont sur le front, ils vont avoir une prime de risque de 1 000 euros. C'était annoncé par le Premier ministre, Édouard Philippe, fin mars, début avril. Ouais. Et c'est cette prime qui a motivé 90% des salariés de continuer à travailler. Il y en a même qui étaient malades, ils ont continué à travailler. C'est des smicards, ils gagnent le smic. Quand ils voient qu'il y a une prime de 1 000 euros, ils espèrent l'avoir. C'était la carotte pour tout le monde. Et la contamination, elle s'est faite sur cette période de mois de mars et avril. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai reçu un appel de mon délégué central. Il me disait, Zouir, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Elle m'a informé que la prime de 1000 euros, je ne serai pas concerné. Elle sera attribuée à prorata. Elle sera calculée sur le temps de présence. Du mi-mars jusqu'au 16 mai. Et moi, je n'ai pas travaillé toute cette période. J'ai travaillé que 2 semaines. Parce que pourquoi ? J'étais contaminé, j'étais hospitalisé, j'étais malade et je ne pouvais pas continuer. On a reçu là, la prime là, au début de juin et j'ai remarqué que j'ai touché 260 euros sur les 1000 euros. Avec tous les risques, j'ai laissé ma santé chez Monoprix, voilà la récompense. Je vais vous dire, avec tous les événements, toute cette injustice, j'ai plus envie de continuer à travailler comme avant. Heureusement, ma femme, elle travaille. Elle gagne le SMIC, pareil. J'espère qu'il y aura une indemnisation, une reconnaissance. La maladie du Covid-19, ça sera reconnu comme une maladie professionnelle, voyez, pour continuer à vivre. Comme les gens qui ont travaillé dans l'amiante, il fallait un combat de 20 ans pour qu'ils soient reconnus. Est-ce que ça sera pareil pour nous?
Je suis Alain Lalouette, je suis né le 10 mars 1944, donc j'ai 76 ans. Maintenant je suis en retraite, j'ai travaillé pour le compte de la commune, enfin travaillé en qualité de bénévole pendant plus de 30 ans, et ensuite donc, en qualité d'élu.
Et le nom de la commune ?
Saint-Brice-Courcelles. C'est une petite ville de 3500 habitants, c'est dans la Marne, ça fait partie du Grand Reims. Je suis arrivé à Saint-Brice-Courcelles en 1984. Je connaissais à l'époque le premier adjoint. Le conseil municipal étant renouvelé, il m'a demandé si je voulais faire partie du conseil municipal. Et à l'époque, c'était monsieur Jean-Claude Fontalieran, qui était maire de la commune. Monsieur Fontalieran a souhaité partir avant la fin de son mandat, donc il a laissé la place à monsieur Alain Lescouet. Il restait plus que 2 ans à courir. Et après, il y a eu des nouvelles élections où Alain Lescouet s'est présenté comme maire. Voilà. Et j'ai fait partie de son équipe. J'avais donc décidé de prendre ma retraite au niveau de la commune, hein, puisque ça faisait 4 mandats que je faisais. J'ai quand même 76 ans. Puis j'avais des idées un peu différentes de celles de monsieur le maire. Et puis on a fait les élections au 15 mars. Donc moi, en qualité d'élu et puis de premier adjoint, j'ai tenu le bureau numéro 1 de 14 heures, pour être très précis, jusqu'à 20 heures, on va dire. Je pointais les registres. J'étais avec monsieur le maire, d'ailleurs, hein. On avait fait le balisage, les isoloirs, ils étaient retournés, il y a une manière à ce qu'ils n'avaient pas touché au rideau, on nettoyait au fur et à mesure les poignées, etc. Mais on avait, au niveau protection, on n'avait rien. Si, on avait des produits pour se laver les mains, des sopalins.
Après, il y a eu le dépouillement?
Le dépouillement, oui, j'étais là, oui, automatiquement, puisque je participe au dépouillement, je surveille les tables, etc. Hein. On avait reçu un coup de téléphone de 22h20, j'avais noté ça. La veille de la préfecture, nous disons attention, attention, évitez ce que les gens s'agglutinent au moment du dépouillement. Bon, c'était parole en l'air, hein. Automatiquement, ben, les gens, vous savez, hein, pour savoir qui serait élu ou pas élu, ils ont des curiosités à l'emporter. C'est là, je pense, qu'on a dû se faire un peu contaminer. Monsieur le maire était déjà malade, bon. Mais ça ne le savait pas.
Ça se voyait ?
Je le trouvais un peu nerveux, mais c'est un peu normal qu'il soit nerveux, les élections. Hein. Bon, toujours, vous êtes toujours un peu anxieux, c'était lui qui se représentait, donc on va savoir le résultat. Donc oui, il était fatigué. Et 10 jours après, j'étais malade, j'étais 8 jours avec 38 de fièvre. La fatigue, plus envie de dormir. Mais c'est tout, ça, moi, j'ai pas toussé.
Combien il y a de personnes qui ont été contaminées en tout ?
Bon, globalement, moi, j'en ai recensé 12. Et c'était des élus, hein, donc, ou des gens qui tenaient des bureaux, hein, bon. Le 24 mars, ça a été un peu particulier. Je reçois un coup de fil à la maison. Les pompes funèbres qui m'appellent, Monsieur Lalouette, on doit évacuer un corps et on n'a pas les papiers de la mairie pour pouvoir évacuer le corps. On n'arrive pas à joindre les services, le numéro de téléphone qu'on appelle, ça ne répond pas. J'ai donc joint le maire par mail. J'ai envoyé, j'ai dit Alain, il y a un problème, il y a un corps à évacuer. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et il m'a répondu tout de suite. Hein. Écoute, je m'en occupe, puis je te tiens au courant. Bon. Et bon, quand j'ai rappelé, la dame du pont funèbre m'a dit, ça y est, monsieur Lalouette, il y a la police qui arrive avec les papiers. Donc on peut évacuer le corps. Alors j'ai renvoyé un mail à monsieur le maire, et puis il m'a répondu, merci Alain, et prends surtout soin de toi. C'est le dernier mail que j'ai eu. Et j'ai su que le mail, il me l'a envoyé depuis l'hôpital. Il était hospitalisé. Et il est mort 2 jours après. Voilà le dernier contact que j'ai eu avec M. Lescouy. Quand on vous annonce que M. le maire il est parti chez Saint-Pierre, bon, ça vous fait un peu froid dans le dos quand même. Hein. Bon, il avait mon âge, pas un peu plus jeune que moi. Je m'attendais à tout, sauf à ça, hein, sauf qu'il disparaisse. Hein. Ça, c'est sûr que là, c'est un choc. Hein. Et puis, le 27 mars, j'ai reçu un coup de fil, M. Lalouette, il va falloir que vous preniez la mairie en main avec l'ancienne équipe du conseil municipal, puisque le nouveau conseil municipal n'est pas en place. J'étais pas élu, j'étais plus rien, quoi. J'étais redevenu un simple citoyen de Saint-Brice-Courcelles. Hein. Bon, écoutez, je me suis retrouvé donc maire de la commune du 27 mars jusqu'au 27 mai, 2 mois. Voilà. Vous vous retrouvez à la tête d'une commune dans des conditions pas tellement faciles. Hein. Bon, parce qu'on n'avait plus rien, on n'avait plus de signature, on n'avait plus rien du tout. Tout était bloqué. Hein. On pouvait plus payer les gens, on pouvait plus payer les factures, on pouvait plus rien faire. Hein. La signature reconnue, c'était celle de M. Lescouy, et comme il était mort, ça compliquait plein les choses. Donc, tout le juridique a été repris en main, et on a eu les autorisations relativement rapidement. On a réussi à faire fonctionner la boutique. Les élus se sont réunis, il y a eu 2 personnes qui se sont présentées, puis ils ont voté pour Mme Quentin, pour qu'elle soit maire.
Est-ce que vous avez pu l'enterrer, votre mère?
C'est très difficilement, hein, ça s'est fait en famille très restreint. Hein, et non, bah, c'était comme tous les enterrements, hein, vous savez, dans ces quarts d'heure-là. Il a été aimé, puisqu'il a eu 73% de suffrage exprimé. Bon. Il était aimé et craint aussi. Il était autoritaire, donc quand il parlait, quoi, hein, une grosse voix. C'était monsieur le maire. Hein. Bon.
C'était le Covid, une maladie professionnelle. Point d'interrogation, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Sabrina, Zouir, Chloé, Alain et Evelyne Quentin. Sachez que depuis l'enregistrement de cette émission en juin, Sabrina l'infirmière va mieux. Elle a dû reprendre le travail pour pallier les pertes de salaire. Elle se donne 1 à 2 ans pour une reconversion professionnelle. Zouir de Monoprix est moins essoufflé, mais il dit que son cerveau ne suit toujours pas. Il a repris le travail en juillet, car bien sûr, il n'avait pas le choix. Il attend toujours une réponse de Monoprix sur cette histoire de prime. Nous avons de notre côté contacté l'enseigne, qui se dit très touchée sur le plan humain par ce cas, mais assure, je cite, avoir pris toutes les précautions nécessaires. Le but de cette prime, ajoute la direction, était de récompenser ceux qui étaient présents dans une situation difficile avec la surcharge de travail. Le seul critère applicable était celui de la présence effective. L'attachée production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust avec Roxane Poulain.